Aujourd'hui, dans notre studio du Boulevard, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Dubois. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et vous êtes venu nous parler de votre métier. Vous êtes thérapeute d'accompagnement. Je vous laisse la parole.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ici. Donc en quelques mots, me présenter, je m'appelle Daniel Dubois, je suis thérapeute d'accompagnement sur le comportement émotionnel, cognitif. J'interviens au sein du cabinet Claude Duras à l'USECH.
Donc, c'est quoi un accompagnement thérapeutique exactement ?
La base d'un accompagnement thérapeutique, c'est avant tout de pouvoir aider chacun à résoudre, à dénouer, à déstructurer ce qui peut nous paraître comme une problématique de vie, quelle qu'elle soit. Le rapport émotionnel à soi-même, à l'autre, familial, social, professionnel, mais également des problématiques telles que les dysfonctionnements alimentaires. Également, pour des personnes qui ont déjà effectué du travail sur eux-mêmes, des petits plus, des petits indices, des petits dénouements supplémentaires. Travailler une thérapie au niveau de ses émotions, c'est avant tout pouvoir se remettre en phase avec soi. Être en phase, ça veut dire accepter de vivre les aléas, les mouvements émotionnels, les fluctuations émotionnelles, sans être dans la résistance, sans être dans la contradiction avec soi-même. Et la base du thérapeute, c'est avant tout ça, c'est de permettre à tout un chacun de rééquilibrer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir le poser, le dénouer, l'expliquer. Et le fait d'être à l'extérieur notamment nous permet d'être neutre par rapport aux problématiques de vie de chacun, qui pourraient permettre aussi à apporter des solutions, des éclairages multifractales, on va dire, sur ce qui se passe.
Avec tout ce que l'on vit en ce moment, est-ce que vous avez reçu dans votre cabinet des gens qui sont atteints par la pandémie ? Est-ce que ça se manifeste effectivement émotionnellement ?
Il y a deux conjonctures. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une réalité, c'est que nous sommes dans l'autre. Et qu'émotionnellement, même impacté par les distanciations sociales imposées, j'ai le sentiment qu'elles sont moins impactées. On est dans des localisations assez isolées les unes des autres. Dans l'ensemble, pour certains, ça n'a pas changé grand-chose. Et le fait de travailler sur une commune comme l'USECH, qui est une commune en elle-même assez isolée du reste des populations, comme tous les villages alentour, je dirais encore une fois que pour certains, il y a un côté impactant, mais pour la grande majorité des personnes, ce n'est pas l'impact prioritaire. Par contre, il y a les personnes qui sont directement impactées. J'ai eu récemment un appel d'un monsieur qui était en mode panique parce que c'était quelqu'un d'hyper sociable et qui me disait le premier confinement ça allait, le deuxième confinement ouais c'est bon ils sont gentils, mais le troisième confinement je ne peux pas. Et en fait cette personne ne s'est pas déplacée, m'a juste appelé, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'un conseil. Et en effet, je l'ai vu notamment... Les personnes qui sont dans ces difficultés émotionnelles de carence relationnelle sont des personnes qui ne vont pas se déplacer. Elles vont m'appeler, m'envoyer des messages, me contacter par visio également, mais pas se déplacer. Tout simplement parce que il y a aussi cette peur derrière, une peur de la maladie, et une peur de se retrouver tout seul. Et c'est pour ça aussi qu'ont été mis en place des chaînes de thérapeutes et de psychologues par les réseaux et par les numéros verts, ça a été la priorité, parce qu'il y avait cette prise de conscience-là que sur la peur, la personne ne se déplace pas, ne veut pas aller à l'encontre des protocoles, ce qui est positif quelque part, puisqu'on évite la propagation d'un virus, et dans cette base-là, va s'auto-enfermer. Moi, ce que je peux conseiller aux personnes qui souffrent de cet isolement qui est présent, mais encore une fois, dans nos régions, c'est un isolement malheureusement commun. Pour beaucoup, c'est d'essayer de mettre du mouvement. Autorisez-vous à mettre de la musique. Bougez. Je sais, ça ne fait pas tout. C'est une réalité. Prenez le téléphone, appelez vos amis, appelez vos familles, Appelez vos connaissances, appelez votre voisin, même si vous n'êtes pas en bon terme, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de générer ce lien. Le lien, il n'est pas forcé d'être immédiatement physique. Bien sûr, on a toute cette dimension du tactile. On est dans une conscience, hein, dans une société très tactile. Par contre, émotionnellement, ce n'est pas dramatique, même si ça a un impact. Et encore une fois, tous les médias, tous les supports médiatiques vont suralimenter toute cette carence émotionnelle. On est toujours dans la surconsommation, hein, de toute façon. C'est la surconsommation émotionnelle. Il faut penser qu'il y a un siècle en arrière, nous n'avions pas du tout les mêmes relations avec nos émotions. Il y avait plus de dignité, il y avait plus de conscience, il y avait plus de respect, en fait, vis-à-vis de soi-même. On n'était pas là-dedans. Et aujourd'hui, d'où l'intérêt aussi de suivre des thérapies d'accompagnement, même si on estime ne pas avoir de problème, et je dirais tant mieux, c'est aussi pour pouvoir rééduquer ce comportement émotionnel. C'est avant tout la rééducation du comportement émotionnel. Et c'est se dire que quand on commence ce genre de travail, on ne finit jamais.
Donc, en gros, si j'ai bien compris, ça s'adresse à tout le monde. On n'est pas besoin d'être malade pour suivre un accompagnement thérapeutique.
Donc, je vais rebondir sur tout ça. Déjà, un thérapeute d'accompagnement n'est pas un soignant. Donc, concrètement, une personne malade va aller voir un médecin, un praticien dans le domaine de la médecine qu'il va correspondre. Moi, je dirais que je ne me base pas sur cette fonction-là. Je suis là pour aider à trouver des solutions, pas pour guérir. La personne qui va venir me voir est à 99% responsable de sa propre guérison, si l'on peut dire. Quand il s'agit justement de maladie, ça va être plus orientable vers un professionnel de santé tel qu'un psychologue ou dans certains cas sur un psychiatre. Concrètement, là, il n'y a pas de dimension de maladie. Et pour répondre à votre question, pour savoir s'il fallait attendre d'être dans un état émotionnel pour aller voir un praticien ou s'il fallait avoir certaines démarches, je dirais que non, il n'est pas nécessaire d'attendre d'être dans un mal-être, dans un ressenti perturbé pour aller voir quelqu'un. Tout va dépendre de la démarche individuelle de chacun. Souvent, les personnes, oui, vont venir quand elles sont face à une problématique de vie, une récurrence, quelque chose qui va les perturber, qui va leur faire mal physiquement ou autre, ou une prise de conscience, quelle qu'elle soit, ou des doutes ou des interrogations.
Comment est-ce que ça fonctionne, un accompagnement ?
Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, qui est le premier rendez-vous sur lequel on va baser la demande de la personne, voir ce qu'il en est, avec la possibilité aux deux intervenants, c'est-à-dire la personne venant demander un accompagnement et moi-même, la possibilité de dire si, oui ou non, c'est faisable. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir me voir pour une problématique X ou Y a la possibilité de me dire « Ah non, en fait, ce que vous me proposez, ça ne me va pas. » Au même titre que je me pose dans le fait de dire si j'estime que oui ou non, la personne qui vient me voir rentre dans mon champ de compétences ou si je ne peux pas la réorienter vers quelqu'un d'autre.
Et quelles sont les méthodes que vous utilisez alors pour le coup ?
Alors les méthodes vont être adaptées à chacun. On va commencer déjà par l'écoute, c'est la priorité. De toute façon, tout thérapeute est obligé de passer par la phase initiale qui est la phase d'écoute, de manière à pouvoir entendre ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. On est là en tant que récepteur avant de pouvoir transmettre quelque chose. Et dans la continuité, il va y avoir, en fonction de la problématique, des exercices doux, réguliers, proposés, souvent mis en place par une amie et collègue praticienne professeure de yoga à Cahors, Isabelle Crassa, qui m'a gentiment proposé des exercices de yoga. Je ne suis en aucun cas professeur de yoga, donc je ne me permettrai pas de proposer des exercices à qui que ce soit. Ce sont des exercices faciles, légers, sans contraintes, accessibles à tout le monde. Je dis bien tout le monde, tout âge, toute condition physique. Donc, on passe par le biais du corps, par les mouvements corporels. On peut passer par les jeux, le côté ludique. J'ai notamment un mini-golf, j'ai d'un jeu de fléchettes, j'ai du badminton, j'ai du hula hoop, etc., etc. Tous ces jeux ne sont pas utilisés en tant que jeu, mais en tant qu'exercice complémentaire.
Qu'est-ce qui vont permettre de laisser paraître ?
Alors, en fonction toujours de la demande de la personne qui va venir, hein, de la recherche de la personne qui va venir, l'accès par le jeu notamment va permettre de travailler une certaine cognitivité et une certaine interaction avec son moi profond, son intériorité, de manière à pouvoir extérioriser, sans s'en rendre compte, quelque chose de très important. Vous savez, c'est un petit peu quand on est enfant et que l'on joue, tout simplement. On se crée un univers défini, on se crée quelque chose, des personnages, on se crée un rythme, on se crée véritablement une bulle personnelle. Quand on grandit, cette bulle personnelle, finalement, se délate. Elle se disloque dans l'atmosphère. Et arrivé à l'âge adulte, on considère tout cela comme des jeux pour enfants. Alors que ces jeux nous auront permis d'être construits, pour la plupart. Donc c'est aussi se resservir de cette base-là fondamentale. Vous trouverez dans le cabinet des poupées, des ours en peluche, des jeux de Lego. Pour tout amateur de jeu, quel qu'il soit, c'est toujours intéressant. Mais l'objectif n'est pas le jeu en lui-même, mais surtout le travail sur la cognition.
Et le choix du jeu, ça vient plutôt de vous ou de la personne ?
Le choix du jeu, on va dire, ça va venir de moi, de par mon observation de la personne, de par la demande, la démarche de la personne, de par le fonctionnement de la personne. Cette observation va être essentiellement personnelle. Après, il y a aussi des exercices de tracer au tableau. J'ai un très beau tableau blanc dont les personnes savent très bien. J'adore me servir de mon tableau blanc. Et c'est vrai que de par le visuel, on arrive à extérioriser également quelque chose par des schémas, par des dessins, encore et toujours adaptés à chacun.
J'ai cru comprendre aussi qu'on peut se servir des yeux.
Alors, on se sert des yeux notamment par des mouvements visuels cognitifs. Donc, en fonction toujours de la personne, bien sûr, je ne vais pas utiliser constamment un travail avec le mouvement des yeux, tout simplement parce que chez certains, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans leur démarche, ce n'est pas dans leur capacité à l'instant T. Le mouvement des yeux, ça va être des mouvements aléatoires, cognitifs, avec une organisation bien précise tout de même. Ce n'est pas du « on va regarder vers le ciel, on va regarder vers le bas », juste comme ça. C'est aussi avec une démarche, une respiration mise en place et une écoute, parce qu'il y a aussi toute cette interaction qui se produit en même temps.
Et puis, il y a aussi l'olfactothérapie. Alors ça, c'est tout un domaine, si j'ai bien compris.
Alors, en effet, voilà, il y a l'olfactothérapie. C'est avant tout l'un des plus beaux outils qu'il m'a été proposé d'utiliser. L'olfactothérapie, c'est avant tout beaucoup de magie qui fait appel à nos nerfs olfactifs, à notre mémoire limbique, notre mémoire émotionnelle qui permet de vivre des émotions intenses et qui, en plus, a l'avantage de travailler après l'exercice. Donc l'olfactothérapie, moi je le pratique avec des huiles essentielles. Il n'y a aucune application, il n'y a aucune ingestion. Le flacon est quasiment plein, j'irais dire. On va travailler uniquement sur la capacité olfactive de l'essence. On peut également reproduire cette olfactothérapie avec des produits du quotidien, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans l'extérieur.
Comment ça marche du coup ? Comment est-ce que vous vous servez des odeurs ? C'est quoi l'idée ?
Alors il y a des prismes bien spécifiques à chaque odeur. Il y a des odeurs de tête, il y a des odeurs de cœur, il y a des odeurs de pied, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et tout simplement ces odeurs vont permettre de décrire le psychisme de la personne. Je vais vous donner un exemple. On va imaginer une personne qui a des soucis relationnels, notamment avec les hommes. Pour ce cas défini, j'utiliserai davantage des odeurs de résineux qui vont la remettre en sécurité avec l'émotion en lien avec le masculin avant toute chose. C'est la première chose à mettre en place. Avant tout travail, quel qu'il soit, c'est pouvoir la remettre en sécurité. Et dans cet élément de sécurité, c'est la contrebalancer avec une note plus féminine, plus douce, dans les orangés ou autres. Mais encore une fois, chaque sens olfactif est unique. On ne peut pas partir du principe de dire « tiens, je vais utiliser par exemple un pin sylvestre ou une fleur d'oranger sur n'importe qui ». Il y a des personnes pour qui ça ne va pas du tout correspondre, ça va être trop fort ou pas assez, ça va ramener à des mémoires contradictoires.
Donc on parle bien là de la Madeleine de Proust.
C'est tout à fait ça, c'est exactement la Madeleine de Proust. On travaille vraiment sur la mémoire olfactive, passé, présent, mais également futur. Parce qu'en fait, ce qu'on met en place, ça le met en place pour le après. Imaginez une odeur qui vous insupporte, je ne sais pas, moi, l'odeur de térébenthine qui est assez forte, assez violente et qui peut causer des maux de tête. Souvent, l'odeur de térébenthine peut être en lien avec des ateliers de création. Mais pour certains, ça peut être en lien avec des lieux pas forcément agréables. Donc, quand ces personnes qui ont été en lien avec un lieu pas forcément agréable vont sentir une odeur de térébenthine, elles vont être mal à l'aise sans s'en rendre compte, sans vraiment savoir pourquoi. Donc l'idée, c'est de remettre en sécurité aussi par rapport à ces situations-là.
On a du mal à s'imaginer ce qui va se passer en soi.
Alors, ce qui se passe en soi, c'est le côté vraiment magique, parce que ce qui se passe en soi, ça se passe sur plusieurs jours après. C'est le côté passé, présent, futur. On travaille sur le passé au présent et ça va travailler sur l'élément futur. Ce qui se passe en soi, c'est que l'émission de l'information olfactive va aller chercher l'information au niveau du cerveau limbique. Elle va faire tout son petit circuit, je ne vais pas vous faire tout le détail, ça ne sert à rien du tout, elle va faire tout son petit circuit au niveau de la mémoire limbique et elle va chercher l'information. Et en fait, au lieu d'aller chercher l'information en vous disant « ça, je vous le mets devant le nez, c'est pas beau, etc. », ça va aller chercher l'information, ça va la transformer. Et ça va la transformer avec tout ce qui est travaillé en lien dans la communication lors de la séance, ça va la transformer. Transformer progressivement au rythme de chacun.
Est-ce qu'on a fait le tour
au niveau des outils, il y a aussi de l'EFT. Donc l'EFT, c'est un principe de tapping. C'est l'un des plus connus aujourd'hui. On tape sur des points déterminés, des zones d'acupuncture. Il y a de très bons résultats. L'EFT intervient notamment dans certaines structures médicales. Je pense dans certains hôpitaux aussi. Aujourd'hui, l'EFT est l'un des meilleurs outils pour travailler sur un émotionnel fort immédiat. Par exemple, ça va être quelqu'un va venir avec une bouffée d'émotion, va immédiatement travailler en EFT pour tempérer. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ce genre de pratique et auquel cas, lors de l'anamnèse, lors du premier rendez-vous, si la personne n'est pas ouverte à ce genre de pratique, j'irais dire, c'est pas la peine. Puisque de toute façon, ce qu'on va faire, ça va rien lui apporter.
Alors là, on a un peu fait le tour de toutes vos spécialités. Comment et où avez-vous appris tout ça?
Alors, comment et où, c'est un très très long parcours. Ça a commencé très tôt, je dirais, dans les années fin 90, début 2000, avec des premières formations en herboristerie. À l'époque, c'était des formations par correspondance et en Belgique, parce que ça n'existait pas vraiment ici. C'était très compliqué à obtenir. S'en est suivi un parcours professionnel qui n'avait aucun rapport avec tout ça, mais des formations personnelles, souvent sur des modules, souvent sur des sessions programmées progressivement au cours des années. Donc c'est déjà tout un parcours de vie, forcément. On commence par des premières thérapies personnelles, première démarche pour un petit peu explorer un petit peu ce qu'il en est. Et de fil en aiguille, on s'ouvre progressivement. Moi, je dirais que dans l'ordre, ça a été l'herboristerie, l'EFT, l'Ayurveda, ça a été l'olfactothérapie. Je dois avouer que ça a été la plus belle formation qui m'a été donnée de suivre, donc notamment en Suisse. Et également, après les formations, les micro-formations de cognition, les micro-formations ponctuelles, variées, et après beaucoup, 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 beaucoup de lectures, beaucoup d'ouverture, beaucoup de recherches personnelles. Notamment, une envie constante de perpétuellement ouvrir.
Alors, est-ce que votre métier, il est reconnu médicalement ?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En soi, c'est pas grave. Il n'y a pas de remboursement, si cela était aussi la question. Donc, il n'y a pas de remboursement parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Pour moi, ma plus belle reconnaissance sont les personnes. Sur les personnes avec qui je travaille, Tout simplement parce que de voir des lumières s'allumer dans les yeux, c'est la plus belle chose. Pas forcément une reconnaissance d'État ou autre. Malheureusement, en France, on est vraiment à la traîne à ce niveau-là. Dans d'autres pays, même francophones, il n'y a pas de problématique de reconnaissance professionnelle.
Et une thérapie, alors j'imagine que ça dépend des gens, mais enfin, en général, c'est bref, c'est long, c'est sur plusieurs mois, c'est comment ?
Alors, l'objectif, avant toute chose, c'est que ce genre de thérapie soit bref. Après, il arrive que certaines personnes, finalement, on déroule sur un sujet, puis vont observer un déroulé sur un autre sujet, et de fil en aiguille, ça peut être sur la durée. Auquel cas, les séances se font beaucoup plus courtes, les accompagnements sont plus approfondis, bien sûr. On n'est plus sur une problématique identifiée, on est davantage sur une démarche personnelle de mieux-être.
Combien de temps ça dure, une séance ?
Une séance dure en moyenne 1h30. Je pars sur une base de 6 séances, les 3 premières, un bilan, et on repart sur d'autres séances. Je propose régulièrement des bilans, de manière à ce que chacun, la personne accompagnée et moi-même, puissions faire une synthèse de l'objectif initial et là où on en est. Et si, pour la personne, il y a quelque chose qui a besoin d'être posé, et ainsi éviter le venir pour venir.
Ça coûte combien en général ?
La première séance, l'anamnèse. L'anamnèse dure 30 minutes en moyenne, hein, 30-40 minutes, est à 25 euros. Donc l'anamnèse, c'est aussi la première synthèse, c'est voir l'objectif, la démarche de la personne. S'en suivent des séances d'une heure et demie, donc à 60 euros. Voilà.
J'ai donc encore une question, c'est quels changements vont s'opérer en soi, nous ?
Le changement, en fait, il n'est pas visible immédiatement. Ça va être essentiellement l'entourage proche qui va observer certaines modifications de comportement. On s'emporte moins, on peut être moins introverti ou à l'inverse, on peut être moins extraverti. On se tempère moins, on a plus de patience. En fait, ce changement, il est progressif, il va s'installer en fonction de tout un chacun, à son rythme biologique. C'est ça, avant tout, la phase essentielle pour toute démarche thérapeutique, c'est écouter la phase biologique, écouter la phase de l'unité personnelle, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut voir comme réaction immédiate ? La première, c'est peut-être un sommeil qui s'apaise. Première chose. Là, je dirais, on peut l'observer très facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous observer comme objectif secondaire ? C'est peut-être une perspective différente. On fait preuve de plus de discernement. Et c'est avant tout la base de toute thérapie, de toute façon. Quelle que soit la thérapie, l'objectif n'est pas un résultat immédiat ou visible. Ça va être de la thérapie dite allopathique, hein, un médecin, un traitement, des soins kinés, autres. Là, on sait qu'on attend une échéance. Quand on entame une thérapie plus alternative, on va dire, c'est aussi prendre conscience que c'est toute une rééducation de son comportement émotionnel qui se met en place. Chez certains, ça peut générer des contradictions. C'est « je veux ça, mais je ne veux pas accepter ça. Je veux aller mieux, mais je ne veux pas que ça change. » Auquel cas, c'est avant tout, la priorité, c'est de travailler les contradictions. Si quelqu'un vient me voir et me dit « je me mets trop facilement en colère, je veux que ça change, aidez-moi. » Ok, pour le coup, on va lancer la procédure d'accompagnement avec les différents outils adaptés à la personne, adaptés à ce qu'il ou elle est à ce moment. Mais ce qui va en découler, c'est qu'après la première synthèse, souvent on observe que ce n'est pas la colère qu'il est nécessaire de travailler, mais plutôt le comportement émotionnel de la colère. Et là, tout est la différence. C'est-à-dire qu'on reformule une structure d'éducation. Une structure d'éducation, ce n'est pas remettre en cause l'éducation familiale ni l'éducation sociale. C'est l'éducation de son caractère. Pourquoi est-ce que je me mets en colère ? Est-ce que c'est moi qui me mets en colère ou est-ce que c'est un ressenti de colère ? C'est on reprend la distance par rapport à cette situation, à ce ressenti, à ce sentiment émotionnel. On dévalorise finalement ce qui aujourd'hui au XXIe siècle est surévalué, c'est les émotions. C'est on surinvestit tout dans nos émotions, on surinvestit tout notre quotidien, on surconsomme nos émotions. Donc forcément, on veut des objectifs immédiats. Si vous souhaitez que l'objectif soit immédiat, c'est un médecin en allopathie, donc un médecin classique, il vous faut aller voir et prendre des médicaments, et là vous allez avoir une réaction immédiate. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, pour certains c'est utile, et même pour certains je dirais je pourrais même le conseiller de prendre connaissance avec son médecin. Et souvent lors de l'anamnèse, je demande si la personne est suivie par un médecin, et à quand remontent ses dernières analyses par exemple, parce que tout simplement, avant d'entamer une thérapie, il est important d'observer l'état de santé du corps. Et que oui, c'est une réalité. Des fois, un organe déficient, une fragilité digestive peut être à la base de la démarche. Donc, auquel cas, bah oui, ça va peut-être être une cure de vitamines ou des médicaments ou autres qui vont rentrer, ou des plantes. Ça dépend de la culture de chacun, de l'homéopathie, voilà, ça dépend de chacun. Mais souvent, pour résoudre un objectif, je ne suis pas la seule intervenante. Et la priorité, c'est aussi à la personne qui vient effectuer la démarche, c'est de pouvoir entendre que je ne suis pas la seule intervenante et qu'il est possible, ça m'est déjà arrivé, de dire à quelqu'un, là on ne se voit pas ce mois-ci, mais par contre, il faut que vous alliez voir un ostéo, un kiné, une de mes collègues ou même le médecin. Ça aussi, c'est important.
Vous êtes dans un cabinet, vous n'êtes pas seul.
Non.
Donc, parlez-nous un peu des gens qui vous accompagnent dans ce cabinet, qui est à l'Uzèche.
Alors, le cabinet Claude Duras, plus précisément, à l'Uzèche. Donc, c'est un cabinet, comme je vous ai dit tout à l'heure, pluridisciplinaire. Il y a Marie-Hélène Godard, qui est biokinergiste. Donc, il s'agit d'une pratique corps qui va travailler sur la profondeur tissulaire, elle en parlerait mieux que moi forcément.
On l'invitera.
Il y a également Pauline Ventrois qui est formatrice et praticienne shiatsu. Il y a également Nadège Alvarez-Messon qui est praticienne en rolfing. Alors le rolfing, qui est très peu connu encore aujourd'hui, est une pratique corps qui travaille en profondeur sur la structure. Donc on rééquilibre vraiment la structure. Et il y a également Christelle Vittori, qui est naturopathe.
Comment on fait pour vous contacter ?
Pas de page d'internet à proprement parler, puisque en toute honnêteté, je ne suis pas présente forcément sur la connexion internet. Nous avons toutefois une page du cabinet en page Facebook. Donc cabinet Claude Duras sur Facebook, il n'y a pas de souci pour nous contacter. Ou autrement, directement en lien personnel à mon numéro de téléphone.
Eh bien, merci beaucoup, Danielle. On va certainement en plus profiter de vos conseils, puisque vous avez la gentillesse de bien vouloir nous animer quelques petites émissions à venir. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. À bientôt.
Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard, et peut tout changer. Donne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur. Ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer. Alors,
oh, fais ce qui compte, oh, fais ce qui compte. presque rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard. I'm not.